nécessaire. Et ce que Intika a débloqué, ce que lui trouve comme défaut, déficit de la logique canonique classique et qui fait apparaître dans le sens de tout ce qui va être industriel et militaire, moi, je le fais du côté plutôt Tao Te King pour l'époque de la science, vous voyez, déconnage avec des petits moyens. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle l'énonciation, le fait de dire ce qui traumatise les enfants dans le trauma. C'est voilà, ça commence avec ça. C'est l'opérateur d'assertivité, l'assertion que Madame Claude Imbert, elle dit, c'est un parasite de Frege, ce caractère d'assertion. Vous voyez, Frege, il l'écrit comme ça. Hein, le tout x, quel que soit x fidèle x, il écrit comme ça. Et ce que les mathématiciens ont conservé, c'est ça. Ça, c'est le caractère que Claude Imbert, elle appelle, dans son livre qui s'appelle Pour une histoire de la logique, elle appelle le caractère parasitaire. Un parasite. C'est vrai, c'est un parasite. C'est le parasite de la parole dans l'écriture. Et la parole, c'est un parasite dans le corps. Lacan, il le dit. C'est une saloperie. On a le corps parasité. Voilà ce que c'est la droite infinie. Et on s'en débarrasse jamais, parce que sinon, c'est le moyen que le sujet a trouvé pour rentrer dans le corps, ou le corps dans le sujet, dans le langage, et puis faire quoi ? Qu'il surmonte ses insuffisances par la déviation sexuelle. C'est la déviation, c'est le trip freudien. Il va se mettre à écrire, il va faire des phonèmes ou des lettres, ça va les signifiants du côté des oreilles, lettres du côté des choses écrites, mais avec n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. C'est de la déviation permanente. Ça s'appelle sexe. Et ça commence par la parade sexuelle qui... Vous voyez, le chiffon, le trapidos, l'objet transitionnel du petit garçon. C'est moi, je l'ai là. Avec ça, je peux affronter l'angoisse de ma mère. Bon. Alors, voilà. Et ça, c'est la solution qui trouve l'enfant. Il découvre la fonction phallique, le fait de dire, que le fait de dire, c'est quelque chose de déterminant, c'est ce qui fait marcher les foules, c'est ce qui fait marcher les humains. Et il va commencer à étudier ça dans ses théories sexuelles infantiles. Voilà la droite infinie. Alors, qu'est-ce que Lacan nous propose avec cette droite infinie ? Il nous dit, regardez, ça, j'efface tout ça maintenant. J'efface tout ça, je garde juste ici. On va mettre des droites infinies dans ces dessins. On va mettre des droites infinies pour voir le rapport que ça a avec le borroméen. Regardez, dans le borroméen, il n'y a pas de droite infinie. Tous mes croisements, il y a 6 croisements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 croisements. Et bien ici, vous pouvez faire un nœud borroméen. Regardez ce que vous avez besoin d'ajouter, c'est ça. C'est assez bête. C'est pas très compliqué de faire une. Avec le dessin que je vous avais dessiné là d'abord, hein, vous voyez, comment vous faites un... Vous voyez que ça, c'est bien une écriture du borroméen, parce que, allez... On ne va pas s'embêter, hein. Si ça flotte un peu aux extrémités, ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va fermer ça en droite infinie, à la manière de Desargues. On va compactifier. La droite infinie, c'est un cercle. Bon. Seulement, voilà, c'est que ici, ça devient plus intéressant avec celui-là. Regardez, je le remets au milieu, là. Ici, si je dessine ça, voilà, j'ai deux droites infinies qui sont coincées par un autre rond. Qu'est-ce que je peux faire ? Pour faire le nœud borroméen, ça c'est 0, ça c'est 1. Qu'est-ce que je peux faire ? Ben, je peux fermer les droites infinies, mais quand je ferme les droites infinies, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que ici elles vont se croiser. Voilà. Vous voyez, mes cercles, quand il n'y a qu'un cercle, quand il n'y a qu'une seule droite infinie à mettre. Bon, et ici, il y a un problème qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Voilà. Ce dessin, c'est le nœud borroméen, mais il manque un croisement. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque un. Ici, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 6. Là, il y en a 6, donc il n'y a pas. Ici, c'est facile d'achever le nœud, le dessin du nœud. Donc, ça, c'est une représentation. Moi, je n'appelle pas ça une représentation. Je dis, c'est une façon de présenter le nœud borroméen avec une droite infinie. Malgré la droite infinie, vous êtes bien d'accord que ça, c'est bien un nœud borroméen. Bon, ça n'a pas empêché les éditeurs
de RSI de rater complètement le problème. Vous voyez, on n'y comprend rien dans RSI, dans cette édition. Mais comme ils le remettent bien fait un peu plus loin, dans la deuxième leçon, c'est dans la leçon numéro 2. Oui. Au début de la leçon numéro 2, mais il y a une complication là, il y a l'ouverture ici des l'idée de d'autres droites infinies. Parce que Lacan, il est en train de réfléchir à la relation de celui-là avec celui-là. Bon, et bien c'est là que Joyce va rater son nœud. C'est dans ce cas-là, regardez Joyce, le ratage de Joyce, alors je le dessine bien sans ratage. Si je dessine bien le nœud borroméen, vous voyez, Lacan le dit 5 fois dans RSI. Il dit, il ne faut pas rater le point à l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les épiphanies de Joyce, regardez. C'est pour ça qu'il s'intéresse aux épiphanies. On a écrit qu'il était petit aussi, mon Dieu. Regardez, Joyce, il est là, vous voyez. Mais ce nœud n'est un nœud borroméen. Ce nœud ne sera borroméen que si, à l'infini, mais l'infini chez des arcs, c'est juste la contrée à côté. C'est juste à côté l'infini, vous voyez. C'est pas la peine, je peux tirer sur les droites infinies pour les mettre loin, mais ça n'a aucune importance. Que je les mette très loin ou que je les finisse ici, regardez, les droites infinies, elles sont là. Mais alors, ici, Joyce, il rate. Là, ça passe au-dessus. Qu'est-ce qui vous dit comment il faut faire ce croisement-là? Hein? Est-ce que vous, c'est ça la question que je vous ai posée dès le début. Comment achever ce dessin pour faire un nœud borroméen? C'est ce croisement-là, il est déterminé par celui-là. C'est pour ça que c'est pertinent, l'histoire des épiphanies. C'est que si j'ai des éléments ici, je peux savoir ce qui se passe à l'infini. C'est pour ça que ce parasite qui est la parole, il vous rentre dans le corps. Mais si vous lisez vos textes ici, les rêves, vous allez être enseigné ce qui se passe dans l'autre, à l'autre bout, à l'infini, de l'autre côté. Vous voyez? C'est, comment ça se passe, regardez ici. C'est très simple. Cette droite-là, qui est ce carré-là, cette droite infinie, ici, elle passe en dessous de celle-ci. Ben, pour que ce soit borroméen, il faut que cette droite, quand elle rencontre de nouveau la même, ici, si elle passe en dessous ici, il faut qu'elle passe en dessous ici. Et si elle passe au-dessus ici, il faut qu'elle passe au-dessus ici. Ben oui, pourquoi? Parce que si elle passe au-dessus ici, la droite comme ça, hein, et qu'elle croise, et que ici, je la fais passer en dessous, qu'est-ce que ça va faire? Regardez, celle qui passe au-dessous va passer au-dessus, et celle qui passe au-dessus va passer en dessous. Qu'est-ce que ça fait, ce genre de figure? Ben ce genre de figure, ça fait deux ronds enlacés. Ça fait ce que j'avais appelé un non-nœud ou un enlacement. C'est un enlacement, c'est pas noué. Ça empêche même, ça bouffe le nœud, ça défait le nœud. C'est ce que dit Lacan, si vous ratez le croisement, ici c'est réussi. Bon, mais nous, les réussites, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Joyce, il rate. Et ce que dit Lacan, c'est que en faisant cet enlacement dans le nœud borroméen, Joyce, il libère le rond qui est là, le rond I. Alors, je vais vous dessiner le ratage de Joyce. Le ratage de Joyce, c'est quand ça passe en dessous ici, il le fait passer au-dessus ici. Vous voyez? Et il crée un enlacement. Les deux formes quadrilatères, elles sont enlacées. Il y en a une qui passe dans le trou de l'autre. Vous voyez? Celui qui est là, il passe au-dessus ici, et là il passe en dessous de l'autre rond. De l'autre rond qui est un rectangle. Bon. Ils sont enlacés. Ça, c'est enlacement. Enlacement, c'est vraiment rédhibitoire, c'est non-nœud. Quand il y a de l'enlacement, là, vous n'avez pas de nœud. Le nœud, c'est quand justement ça tient sans enlacement. Alors il y a des nœuds plus ou moins borroméens. Et les nœuds borroméens, ils sont des nœuds parce que justement, il n'y a pas de sous-chaîne enlacée. Quand on retire un rond, tout se libère. Et vous voyez bien que dès qu'il y a de l'enlacement, vous pouvez retirer tout ce qui est autour de l'enlacement, l'enlacement continue à tenir. La seule manière de défaire un enlacement, c'est de retirer un des deux ronds enlacés. Donc la chaîne olympique est hyper non borroméenne, elle n'est pas libre, mais elle est tenue. Elle est tenue d'une manière, comme le dit Lacan dans... Les non-dupes, à propos de Hans, il dit, et des névrosés pendant la guerre, Il est névrosé, le petit Hans, vous lui retirez des ronds, et bien ça tient toujours. Il dit, dans la guerre, hein, Freud a écrit là-dessus, mais vous avez qu'à voir. Moi, je trouve qu'il y a une très belle photo qui montre ce que c'est que la névrose d'une manière admirable, même dans l'époque de la science, chez l'employé, au sujet de la science, qui a la télé, les congés payés, tout ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une très belle photo, moi j'ai vu ça, c'était à l'époque de la guerre civile au Liban, à Beyrouth. Vous avez une famille dans un immeuble très moderne, toute la façade est effondrée, les appartements ils sont en plein air, et ben ils ont le tapis du salon, la banquette, et ils regardent la télé. Il n'y a plus de balcon, il n'y a plus de façade, tout s'est écroulé, mais ils continuent à regarder la télé. Vous voyez, le névrosé c'est ça tient. Vous lui retirez un morceau, un pan entier de son habitation, continuez à aller faire les courses. Vous voyez ? Allez voir comment ça se passe à Moscou. Ils font le marché noir. On prend son cabas et puis il faut faire la queue. C'est un peu chiant. C'est vrai que c'est le contraire de la société de consommation qui nous ravit tant, mais quand on est névrosé, on est increvable. Ça, c'est les enlacements. Et le nœud, il n'y a pas d'enlacement. Donc Joyce, il est plutôt un Hamlet hystérique, increvable. Alors les mecs qui viennent nous raconter que Joyce est psychotique, d'abord, ils n'ont pas lu Joyce ni Schreber, parce que si vous lisez Joyce, c'est pas comme Schreber, c'est loin d'être une drag queen. Je ne sais pas comment quelle idée vous avez de Schreber, mais hein, se mettre des boucles d'oreilles devant un miroir en se gonflant la poitrine en disant qu'est-ce que ça doit être beau d'être une femme en train de subir l'accouplement, pourquoi elle ne le ferait pas subir à son partenaire aussi. Hein, c'est une belle femme, Schreber, vous voyez, c'est une drag queen. Bon, alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire, ah, mais Joyce, il a quand même écrit le monologue de... Justement, c'est une insulte vis-à-vis des femmes de dire que Joyce est psychotique, quand même, parce que c'est un très beau monologue, ce que Moni Bloom, qu'elle raconte dans son lit le soir, pas le soir, toute la journée, elle est dans le lit, elle parle de ses amours et de ses amants. Cady Berberian, elle a chanté ça sur une musique de son mari Berlioz, c'est étonnant, il y a des gens qui n'aiment pas. On n'est pas obligé d'aimer Cady Berberian qui chante le monologue. Ça s'appelle Music Chamber. Et écoutez ça, c'est magnifique. Et Berlioz, il avait une femme qui était une soprane, il lui a proposé de chanter, elle a chanté les Beatles aussi, vous savez, elle était capable de chanter ça. Bon, toujours est-il qu'il faut... Alors, seulement, c'est vrai que Lacan nous dit dans son écrit Joyce, le symptôme, hein, c'est son nom, il s'appelle Joyce, mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'il jouit dans son symptôme? C'est ça toute la question. Je crois que ça, c'est assez ironique, puisque Lacan, il va faire... Hein, vous voyez bien, Lacan, il dit jamais Joyce, le symptôme, hein, vous ne le trouverez pas dans le séminaire. Vous trouverez, il dit des choses sur le symptôme et le symptôme, sur Joyce est-il fou, mais il ne dit pas Joyce le symptôme, il dit Joyce le symptôme. Et là, dans l'écrit, c'est un des derniers écrits de Lacan, c'est l'avant-dernier, avant la préface à l'édition anglaise. Hein? C'est Joyce le symptôme, c'est 4 pages, et il fait un exposé sur ce que c'est que l'hystérie de Hamlet. Hein, ce que c'est l'hystérique, c'est ce qu'il avait commencé à dire dans D'un autre à l'autre. L'hystérique, c'est un sujet qui ne veut pas se prendre pour, ça c'est une définition de la folie de Lacan. Justement, les femmes, les hystériques sont pas folles, elles veulent pas se prendre pour une femme. Elles veulent pas être symptômes pour un autre corps. Elles s'intéressent aux autres comme symptômes. Mais elles veulent pas être symptômes. Ben, y en a plein. C'est très digne d'être hystérique. Et là, il y a toute une explication jusqu'à Socrate qui serait hystérique aussi et qui aurait inventé la psychanalyse s'il avait fait payer les gens à Athènes. Et ça finit la séquence. Alors, il y a l'exposé, c'est page 568 dans les écrits. Joyce, Hamlet, le fils nécessaire. Et l'explication sur l'hystérie, c'est page 569. Ça commence par une involution, une petite inversion de Lacan qui va encore faire dire à sa famille qu'il est sénile et il perd les pédales. Ainsi, les individus qu'Aristote prend pour des corps. Vous ferez remarquer que Lacan, il écrit ça. Ainsi, des individus qu'Aristote prend pour des corps. Je vous ferai remarquer qu'Aristote, il écrit au contraire, que ce sont les corps qu'on prend pour des individus. Hein? Aristote, il prend le mot individu, ça vient d'Aristote. Il considère que les corps, c'est justement ce qui se découpe pas en morceaux. On peut le faire, hein. Depuis, on l'a fait beaucoup. Mais quand même, pour Aristote, vous avez qu'à lire Canguilhem là-dessus, il l'explique très bien. Chez Aristote, ce sont les corps qu'il prend pour des individus. Et c'est même pour ça qu'il dit que ça ne peut pas être divisé. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire de géométrie et de mathématiques. Il ne connaissait pas, Aristote, la topologie. Il pensait qu'à Euclide et à l'espace parté, extra parté. Donc, pour qu'on fasse des mathématiques, il faut pouvoir découper. C'est important. Vous voyez, on en est encore à l'état. Vous avez un très beau article, une étude de Canguilhem là-dessus, qui s'appelle le concept et la vie. Hein, c'est chez Vrin, là, dans son ouvrage sur les... l'histoire et la philosophie des sciences, très beau texte dans lequel il dit que chez Aristote, on peut lui pardonner, bon, il connaissait pas ni Félix Klein, ni Listing, bon, la topologie, il n'avait pas l'idée, il avait la géométrie d'Euclide. Mais que, justement, Husserl, qui était mathématicien à la fin du 19e, et puis Bergson, qui était mathématicien aussi, qu'eux, ils n'aient pas eu l'idée qu'il y avait, avec la topologie, on pouvait peut-être repenser le problème. Il faut attendre quand même Lacan pour que ça prenne un peu une portée. Parce que chez les mathématiciens, ils font ce qu'ils peuvent. Ils réussissent là où les paranoïaques échouent. Ils font. C'est pour ça que, vous savez, les livres qui sortent à Gödel psychotique, je vous dis, c'est complètement aussi stupide que dire Joyce psychotique. C'est des insultes gratuites. Parce que moi, je suis indigné par ce genre de truc. Moi aussi, je suis psychotique. De toute façon, je suis tranquille. Mais le seul problème, c'est que ce qui va les embêter, c'est que ils disent rigueur, liberté et rigueur psychotique. Bon. Cantor a dit, les mathématiques, c'est la liberté. Mais ce n'est pas n'importe quelle liberté, au contraire. C'est l'intégration des contraintes, jusqu'à y compris la contrainte que j'ai écrite ici, qui est celle de l'assertion, que les mathématiciens et les logiciens ont un mal fou à faire rentrer dans leur discours. Ce parasite. Le fait qu'ils écrivent toujours des choses correctes, des choses vraies. Bon, c'est faire rentrer la fonction phallique. Non pas la subir comme censure dans la cité, entre privé et public, c'est la faire rentrer dans son intimité subjective de celui qui écrit en silence. C'est jouer le jeu d'une manière hyper pudique. Donc ce n'est pas des psychotiques, les mathématiciens. Et justement, c'est les seuls qui réussissent là où les paranoïaques échouent. Parce que les paranoïaques, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on écrive tout, y compris cet opérateur. Alors c'est vrai que c'est un parasite parce qu'on peut l'enlever. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois, j'ai mis un schéma bleu, on peut le mettre, on peut l'enlever. C'est ça lire, c'est se débarrasser des choses qu'on n'est pas obligé d'écrire tout. Ça c'est lire, mais on n'est pas obligé de tout écrire, on peut lire en sachant qu'il y a des choses qu'on pourrait écrire un peu plus, mais c'est pas la peine, on n'est pas obligé de foutre des estampilles et des étoiles jaunes sur les juifs ou des triangles roses sur les homosexuels je vous dis, service compris, il n'y a plus du tout le service à l'appréciation de la clientèle. Voilà, le psychotique, c'est ça, le paranoïaque. Il ne supporte pas, parce qu'il dit tout le monde va tricher. Aujourd'hui, on vous dit corruption ou les gens vont tricher. Mais écoutez, on ne mettra jamais un flic derrière, et un règlement et une administration derrière chaque sujet. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit à un analyste argentin, je lui dis. Mais pourquoi vous intéressez tant à la psychanalyse, vous consacrez votre vie à ça, et la topologie, vous savez même pas ce que c'est, ça ne vous intéresse pas de ça. Il me dit, c'est un type qui a aidé Miller à fédérer tous ces gens-là. Il me dit, si on ne s'occupe pas d'organiser toute la collectivité, la communauté analytique, la société, les gens vont faire n'importe quoi. Je lui dis, mais écoutez, au contraire, c'est plus vous allez réglementer les choses, plus vous allez avoir des abrutis, parce que vous n'arriverez pas à trouver la bonne formule. Hein. C'est pas facile de faire Newton, de faire le mathématicien. Trouver la formule qui tombe pile poil. Il y a des juristes ici qui essayent et ils ont du mal. Hein. C'est pas si bien que ça, le droit canon. Même. Vous n'avez qu'à lire le genre. Ça donne quand même beaucoup de symptômes. Et là-dessus, vous voyez bien que les gens, ils font effectivement, dès que vous leur proposez une réglementation, ils vont faire exactement tout ce que vous leur suggérez de ne pas faire. Bon, donc, de qui se moque-t-on? On se moque de nous parce qu'on prétend que c'est comme ça qu'il faut penser quand on est sérieux. Moi, je dis que c'est pas sérieux. Je dis que c'est pas sérieux du tout. Là-dessus, donc, les corps sont des individus, et là, Lacan, il écrit que ce sont les individus qu'Aristote prend pour des corps. Peuvent n'être rien que symptômes eux-mêmes relativement à d'autres corps. Une femme, par exemple, elle est un symptôme pour un autre corps. Voilà, une femme, c'est un symptôme, c'est un dans une série Fibonacci, c'est comme ça qu'il le traitait dans D'un autre à l'autre, c'est Hein, c'est un corps, il est suivi d'un autre corps, et le corps précédent, ben, il est symptôme pour le suivant. Ça veut dire une femme, elle est un symptôme pour son fils. Mais elle est aussi un symptôme pour son mari. Mais est-ce que le mari, c'est pas sa mère qui est le symptôme, hein? Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont toujours la mère cachée derrière le père, et derrière le mari, ce serait la mère. Les gars aussi, ils ont la derrière cachée derrière la femme, il y a toujours la mère. Bon. De toute façon, la mère, elle est là d'abord. Hein? Elle est très importante pour ça, mais elle est importante en tant que ça, justement, ça ne marche pas. Bon, ça va être la sortie du système, la sortie de l'appareil à langage du processus primaire. Et Lacan, il nous explique qu'est-ce que les hystériques, justement, hein, si ce n'est pas le cas, elles restent symptômes d'hystérique. On veut dire par là dernier. Elle ne veut pas être un symptôme pour ses enfants. Ou pour son mec. Et puis évidemment, ça peut aussi être vrai pour des hommes. Il y a des hommes hystériques, hein. C'est moins courant. Parce que si on est calibré femme d'un point de vue anatomique, on va avoir nettement tendance à vouloir être hystérique si on ne veut pas être catégorié comme femme. Donc, c'est quand même plus courant. Mais il y a des mecs comme Saint-Jean de la Croix, dit Lacan, ils sont assez doués. Il y en a quelques-uns qui sont hystériques. Hein, ça peut arriver. Et il y a Socrate. Alors là, il va nous parler de tout ça jusqu'au point où il nous dit, hein, le symptôme hystérique, je résume, c'est le symptôme pour l'homme, L-O-M, il écrit l'homme, intéressé aux symptômes de l'autre comme tel, d'intéresser aux symptômes de l'homme comme tel, l'hystérique, ce qui n'exige pas le corps à corps. Le cas Socrate le confirme exemplairement. Bon. Et il conclut bien en disant « Pardon de tout ça, hein, pardon, tout ça n'est que pour spécifier de Joyce de sa place. » Curieuse expression. Spécifier Joyce de sa place. Mais pour spécifier de Joyce de sa place. C'est comme ça que ça a été imprimé. Hein. Bon. Alors, vous voyez. Et alors, effectivement, Lacan nous dit « Attention, Joyce ne se tient pas pour femme à l'autre. Hey, » Joyce ne se tient pour femme à l'occasion, il n'y a pas la négation là, c'est un nœud explétif. Joyce ne se tient pour femme à l'occasion que de s'accomplir en tant que symptôme. Idée bien orientée que quoique ratée dans sa chute. Ouais. Là, on pourrait le trouver psychotique. Alors c'est pour ça que j'ai proposé à tout le monde de chercher où est-ce que Joyce veut qu'on l'appelle d'un nom spécial. Là, quand il propose, il dit, je le dirais, symptomatologie. Ce serait éviter de l'appeler par le nom qui répond à son vœu, ce qu'il appelle un tour de farce dans Finnegans, page 162 et 509. Donc je l'écris au tableau. Ceux qui veulent chercher dans Finnegans, ouais, page. Ceux qui veulent voir où Joyce pourrait être psychotique, ils souhaitent porter un nom, page 502 et 509 dans Finnegans. Un nom qui répond à son vœu. Mais Lacan, il préfère l'appeler symptomatologie. Hein? Alors, il fait des blagues, Lacan. Il nous dit, c'est un tour de farce. Ça se trouve dans les pages en question, le tour de farce. Hein? Où il l'énonce proprement par l'astuce du destin en force qu'il tenait de Verdi. Hein, la force du destin. Avant qu'on nous la sème. Avant qu'on nous la sème, parce que vous voyez, c'est Freud qui nous l'a semé. Le destin en force, c'est le livre. Bon, on va venir à ça. Alors, quelle est la réparation de Joyce? Joyce, il rate son nœud ici. Il s'intéresse aux épiphanies parce que ça rate là-bas dans l'autre, à l'infini, ça lui vient jusque dans le corps. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, quand il est dans une pièce, il y a une conversation, il y a des gens qui sont en train de parler. Il entend une épiphanie, hop, il va aux chiottes et vous voyez la hâte, voilà la hâte, elle est là. Ça, c'est ma femme qui m'a fait remarquer ça. Moi, je posais la question, où est-ce qu'elle est la hâte? Lacan, il dit dans son écrit, il dit la hâte, elle est pas tendre. On voit qu'elle est là. La hâte, c'est dans la technique de Joyce, c'est absolument fondamental. Eh bien, oui, dès qu'il est dans un salon ou dans la rue ou n'importe où, il entend une phrase, hop, il va aux chiottes parce que c'est un endroit où on peut s'isoler rapidement et hop, il écrit l'épiphanie. Et il y a même un type, c'est Hellman qui raconte ça, il y a un type qui dit, oh c'est quand même agaçant ce Joyce, on est en train de parler comme ça entre amis, et puis on va retrouver un morceau de notre conversation dans la littérature de ce type, c'est quand même agaçant. Bon. Eh bien oui, il s'intéresse à ça, c'est-à-dire que si vous notez bien ce qui se passe ici, vous allez pouvoir apprendre à lire ce qui se passe là-bas. C'est ça la leçon qu'il faut prendre. Si vous savez apprendre à lire ce dont vous disposez par le moyen de vos rêves, par exemple, de vos symptômes, de ce qu'on appelle les formations de l'inconscient, vous pourrez lire comment ça se goupille de l'autre côté. Et chez Joyce, ça se conclut par le fait que comme c'est raté ici, ce rond-là, il est libre. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi ce rond est libre? Ça, je vais le faire sur la page des exercices. J'efface ça pour vous montrer le rond libre. Le rond qui se libère, c'est pas très compliqué. Alors ça, c'était le cas réussi. Je dessine en dessous le cas. Dans le cas réussi, si ce rond-là, vous venez le faire, le déplacer, vous venez le mettre autour de ce croisement, vous verrez que ça tient toujours. Il suffit de faire passer le rond de la même manière ici qu'il passe là. Je vous le dessine, si vous voulez, voilà. Ici, il passe au-dessus de celui-là, donc il passe là au-dessus, il passe là en dessous. Le rond, il est là, en dessous, au-dessus, voilà, et en dessous. Bon. Vous voyez ? Si je déplace le rond, si je déplace ce rond, alors je me suis trompé, attendez. Les droites infinies, elles ne sont pas comme ça. Voilà. Ce croisement-là, j'ai mis le rond autour. Ce croisement-là, je mets le rond autour. Ce rond-là, je le déplace ici. Ça tient toujours, parce que le nœud est bon. Alors, il passe. Voilà. C'est celui-là qui passe au-dessus, comme ça. Il vient là, au-dessus de celui-là, là, comme ça, voilà. Ils ne sont pas enlacés. Hein. Voilà. Bon, vous voyez, ces deux rectangles n'ont pas bougé. Le rond qui était là, je peux le déformer et le ramener là. Bon, ça tient toujours. Alors que dans le cas raté qui est là, le cas qui est raté, si je fais la même chose, si j'amène le rond qui était ici, si je l'amène de l'autre côté à l'endroit où c'est raté, le croisement est raté, voilà, je dessine ça comme ça, bon. Et le rond qui est là, je l'amène ici, vous voyez. Le rond qui est là, il passe en dessous de celui-ci. Il passe en dessous de celui-là. Il passe au-dessus de celui-ci. Alors, je vous le montre sur le dessin de mon ratage de Joyce où il passe au-dessus. Vous voyez, il passe en dessous ici. Ici, il passe au-dessus de celui-là. Donc, s'il passe en dessous là, je peux le déformer pour le faire passer au-dessus ici. Et il passe au-dessus ici, puisqu'il passe là. Et donc, il passe en dessous, là. Pourquoi il passe en dessous? Parce que ici, il passe en dessous. Donc, si je fais circuler ce croisement jusque-là, ça revient là. Bon, il y a une dualité, il y a une opération qui n'est pas simple. Il y a une petite complication dans ce que je suis en train de faire, qui est cachée. C'est une opération topologique nulle, donc c'est du genre du trou réel, c'est-à-dire du truc qu'on ne voit pas. Ça s'appelle la dualité. C'est-à-dire que pour faire ça, vous voyez, pour faire passer ce rond d'ici à là, regardez comment je suis obligé de faire. Si je voulais le déformer continuellement, je suis obligé de faire un cercle qui fait tout le tour de la figure. Ça, c'est une transformation topologique nulle. Voilà. Si maintenant je déforme ce dessin, je vais obtenir celui-là beaucoup plus facilement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré sur le chewing-gum et puis j'ai fait un grand cercle que j'ai balancé tout autour de la figure. Et ça me permet, hop, de passer à ça. Bon. Ben, si je fais la même chose entre celui-là et celui-là, vous voyez bien que ici, ça ne tient pas le rond. Est-ce que vous voyez que le rond ici, vous n'avez pas cette espèce de structure celte où les choses sont alternées. Là, ici, ce n'est pas alterné. Vous voyez le rond qui est là, noir, qu'est-ce qu'il fait? Il va pouvoir glisser. Il va se casser. Ça, Lacan va le dire quand il va présenter justement cette histoire du ratage de Joyce à la fin du séminaire. Alors c'est ça qui est très curieux. Vous voyez la difficulté qu'a Lacan à nous parler de ses affaires, c'est qu'il met ce dessin-là, et ça on va voir que c'est le cas de Freud, le dessin qui est à côté, la chaîne à quatre qui est à côté, c'est le cas de Freud. Ça va être l'Oedipe. Donc ça va être la même chose, le même problème, on va reposer le même problème avec Schreber et avec Freud. Avec la psychose et avec l'Oedipe qui vient réussir là où le paranoïaque échoue. Là où il y a la liberté de la rigueur psychotique, mon œil, la rigueur n'est pas toujours psychotique, je vous dis, la rigueur elle est psychotique quand elle échoue. Mais la rigueur qui échoue, ça c'est psychotique. Mais la rigueur qui réussit, les mathématiciens ne sont pas psychotiques, ils sont mathématiciens. Et Freud, justement, c'est extraordinaire qu'on insulte, qu'on s'essuie les pieds dessus, pour même insulter et te faire de la goujaterie avec Joy, puisque Freud, on lui doit justement d'avoir réussi là où le paranoïaque échoue, sans être obligé de faire des mathématiques. Alors on pourrait au contraire dire merci, merci papy, et lire Freud avec quelque intérêt, au lieu d'essayer d'en faire un, je sais pas, un gabé, un croque-mitaine, je sais pas quoi, ou l'apologie. Non, c'est génial, Freud, c'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un qui se trompe tout le temps, mais tout le temps, il avance, il frotte ses silex et il fait des étincelles, c'est-à-dire que il se corrige, quelqu'un qui se corrige toute sa vie, vous voyez, je vous dis, c'est que, il y a, Frege a fait ça, et il a abandonné Frege, il a arrêté de se corriger, il n'a pas publié la deuxième idéographie. Russell, il le dit, Russell, il n'est pas idiot, il le voit bien, il dit, j'ai jamais vu une honnêteté intellectuelle pareille chez Frege. Un type, il avait le manuscrit était chez l'imprimeur, il était prêt à sortir des presses. Il s'aperçoit qu'il existe le paradoxe du coiffeur. Et ben Frege, il publie pas. Il dit à l'imprimeur, stop, on publie pas l'idéographie. Et il arrête. Et il n'a pas eu le courage d'en faire une troisième. Alors que Freud, après 1915, il remet ça. C'est ça qui est réussir là où le paranoïaque échoue. C'est qu'on peut échouer et puis ensuite s'entêter dans son échec. Ça, alors là, les paranoïaques, les analysants, qu'ils soient névrosés, pervers, psychanalystes, comme psychotiques, on en connaît quelques-uns, ils sont absolument acharnés à préférer devenir fous, hein, que de reconnaître qu'ils pourraient se calmer un peu du côté de la psychose et puis ils pourraient réussir là où ils ont échoué. C'est pas... Vous voyez, comme le dit... Moi, je passe ma vie à encourager les gens à réussir là où ils ont l'habitude d'échouer. Vous voyez, comme le dit Hegel. Continuez tranquillement votre œuvre, la science qui vous conduit dans ce labyrinthe de l'âme est seule capable de vous en retirer et de vous guérir. C'est pas un placebo. C'est pas la méthode Coué pour les dames patronesses des contrées lointaines. Non, c'est un truc. C'est pas une illusion, c'est un truc, c'est que ça se résout en acte. Faut le faire. Et ça, c'est des moyens de commencer à rentrer dans une écriture où vous allez pouvoir justement aller jusqu'à répondre à des questions, c'est-à-dire lire Freud, lire Lacan rétroactivement. Et donc, ça commence par le fait que vous apercevrez que même Lacan, là, il peine beaucoup. Il souffre. Et vous voyez qu'il met les mêmes dessins que dans la troisième. Il met là, ensuite, là, il parle de la droite infinie. Ses dessins sont très mauvais pour la droite infinie. Et on peut faire mieux. J'ai fait mieux dans ma préface au catalogue des dessins de Lacan. Et ça se trouve sur Internet, hein, dans ma page. Ça s'appelle l'ADI, je crois. Il y a l'ADI et puis il y a le texte sur l'annonce de secours, le projet de secours. Vous trouverez tous ces dessins là-dedans. Et puis voilà, la sphère armillière. La sphère armillière, il l'avait déjà donnée. Dans la troisième. Et qu'est-ce qu'il fait avec la sphère armillière? Je vous le demande. Qu'est-ce qu'il fait Lacan avec la sphère armillière? Il est en train d'essayer d'expliquer quelque chose à son public. Vous voyez? Il essaye de montrer qu'est-ce que c'est que le triskel. Il essaye de montrer ce que c'est que le triskel parce que ça va être crucial pour ce passage qui va suivre du nœud borroméen au nœud trèfle. N'allons pas trop vite. Donc, on a combien de temps là? C'est fini. Alors on va s'arrêter. Mais la prochaine fois, je vais donc traiter le dit de Freud. Et je vous dis à la semaine prochaine.